das Genie Siebenauer.
An unserem Podcast, die wird Caritas Affair, hat er schon den MC55 kennengelernt, de marc.crochet55@gmail.com.
Ce dossier doit rester strictement confidentiel.
Wir kennen da auch schon de marc.crochet@gmx.de.
I will need you to sort out some payments for me today.
Oder de Marc Crochet alias xox1066@talktalk.net.
Veuillez voir les détails de mon nouveau compte ci-dessous.
Leiert sie all kennen an der letzten Episode von Carambolage, wo mir auch der Spur von der Suche noch gehen, die Caritas geklaut hat. Episode 8, nicht just Ebedruch.
Zähnewirsel, den 100,7 Doku-Podcast. Für keine Episode zu verpassen, abonniert Zähnewirsel überall do, wo dir Podcast lauscht.
Radio 100,7.
La représentation des genres dans le secteur culturel reste marquée par des inégalités et des défis persistants. C'est avec cette citation, issue de l'état des lieux de la représentation des femmes et des hommes dans la programmation culturelle de la saison 2022-2023 au Luxembourg, que nous allons commencer notre discussion. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de modérer cette table ronde sur les inégalités de genre dans la programmation culturelle au Luxembourg, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je m'appelle Marie Trussard, je suis journaliste classique à Radio et Opus 100.7. Assise avec moi à cette table, il y a plusieurs personnes qui nous font le plaisir de venir débattre avec nous sur le sujet et je vais les laisser se présenter elles-mêmes. Bonjour à toutes les personnes présentes, commençons par Alena Baeva.
Bonjour, je suis Alena, je suis violoniste, j'habite au Luxembourg.
Ensuite, Chloé van Souterstedt.
Bonjour, je suis Chloé van Souterstedt, chef d'orchestre et chef invité à l'Orchestre de Chambre du Luxembourg.
Ensuite, il y a Claire Chadec.
Oui, bonjour, je suis Claire Chadec, je suis la chargée de projet du CID Frauen und Gender, une bibliothèque et une organisation féministe ici au Luxembourg.
Et ensuite, Marina Florea.
Je suis Mariana Florea. Je suis la présidente de The Network, c'est une des plus anciennes associations, Professional Women Associations au Luxembourg. In English, it's better. We are connecting and empowering women. It's a lot about networking for women.
Nous allons donc débuter cette table ronde par une présentation de l'état des lieux intitulée « Analyse de la programmation culturelle 2022-2023 dans une perspective sensible au genre au Luxembourg ». Le secteur culturel a donc, du moins à l'époque de la situation en 2022-2023, peine à donner une place aux femmes. Pour donner un exemple, d'après l'état des lieux, au Luxembourg, les femmes sont sous-représentées dans les postes à responsabilité du secteur culturel. En 2022, les trois quarts des directeurs des institutions culturelles de l'État sont des hommes. Dans les établissements culturels publics, ce sont 60%. Claire Chadec, pour commencer, quels étaient les objectifs de cet état des lieux?
Oui, alors, premièrement, en fait, l'étude, elle poursuivait deux objectifs. Premièrement, c'était vraiment d'identifier et de rechercher les inégalités structurelles au sein du secteur culturel ici au Luxembourg. On voulait vraiment recenser la représentation des femmes et des hommes dans différents secteurs, c'est-à-dire dans le secteur de la danse, du théâtre, de la musique classique, mais également de la musique populaire. Donc, on a recensé des festivals et des concerts hors musique classique. Et puis, deuxièmement, on voulait fournir des outils aux acteurs, actrices responsables de la programmation culturelle pour en fait appliquer un regard un peu plus critique quant à la programmation culturelle.
Quand on regarde de manière globale, tout domaine culturel confondu, qu'est-ce qui saute à l'œil après cet état des lieux?
Oui, absolument. Donc, les analyses révèlent en fait que de manière globale, les femmes sont sous-représentées dans l'ensemble des secteurs culturels, avec seulement environ un cinquième de femmes contre quatre cinquièmes d'hommes. Ce déséquilibre, il est particulièrement marqué dans les domaines de la musique classique, ce qui est très intéressant pour notre discussion aujourd'hui, mais également pour le domaine de la musique populaire. Il faut dire que pour le théâtre et la danse, ces secteurs présentent quand même un certain équilibre. La danse même se distingue avec une petite... une proportion légèrement un peu plus élevée pour les femmes, représentant 52,2% 40% de femmes. Ouais.
Le monde de la musique classique est, pourrait-on dire, un peu le mauvais élève de cet état des lieux. Qu'est-ce qui a été constaté exactement après cet état ?
Oui, absolument. Lorsque l'on observe l'ensemble des professions qui composent ce domaine, on constate que les hommes occupent 80,9% des postes. Cette prédominance masculine, elle est vraiment frappante et elle se reflète dans les différentes professions qui ont été recensées. Il faut dire que cette disparité de genre, elle est particulièrement marquée parmi les auteurs. Parce que là, on a plus de 9 professionnels sur 10 sont des hommes. Et on trouve que cela indique quand même un certain déséquilibre pour la création musicale classique. Mm-hmm. De plus, il faut dire que la prédominance masculine, elle est également marquante ou frappante parmi les directeurs artistiques, parce que là, elle s'élève à 87,2%. Et là, on observe quand même qu'on a cette prédominance dans un domaine de leadership et les postes à responsabilité sont les plus souvent occupés par des hommes.
Mm-hmm. Ouais. Chloé van Soederstedt, quelle a été votre expérience en tant que chef d'orchestre ? Est-ce qu'elle reflète ce que Claire Chadec vient de dire ?
Je pense que oui, complètement. Il y a une évolution quand même, je pense. Là, j'ai des chiffres. La première femme à avoir dirigé la dernière nuit, le Last Night of the BBC Proms en Angleterre, c'était en 2013, Marine Alsop qui a joué. Et ensuite, elle est réapparue en 2015 et 2023. Donc 2013, c'est très récent. Mm-hmm. Avant ça, il y avait une première femme qui avait dirigé au BBC Proms en 1984. Donc on a 1984 et 2013. Il y a une énorme gap. Et la question, c'est pourquoi on n'a pas fait confiance, en fait, plus souvent aux femmes. Et ensuite, 2013, il y a aussi un espace de quelques années, 2019, Karina Kanellakis, on lui fait confiance, et j'insiste sur ce mot confiance, pour lui donner le bâton pour la première nuit des BBC Proms. Là, j'insiste pour les BBC Proms, parce que c'est quand même un très grand festival en Angleterre, où j'habite. Et en effet, tous ces pourcentages que vous disiez, reflète complètement le trou et je le sens complètement. Mm-hmm. C'est un honneur d'avoir une invitation à chaque fois que je suis invitée. Je suis très très heureuse et je suis ouais, c'est un honneur.
Mm-hmm. On a un peu l'impression en vous entendant que les femmes qui dirigent sont un peu comme des ovnis ou un événement qu'on va faire en 81, en 93. Et puis, de temps en temps, on se dit « Oh, on mettrait bien une femme pour dire qu'on est inclusif. »
Oui, et c'est
et
ça.
Puis,
et en plus, là,
y a pas de consistance,
on commence
pas.
Du coup, on pense aux quotas. Et on pense à ouvrir des tiroirs et on met « Ok, là, il faut qu'on mette des femmes. » Mais on doit nous engager pour des concerts parce que on le vaut, c'est tout. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on est une femme.
Mm-hmm. Mariana Floria, est-ce que vous observez des phénomènes similaires dans d'autres domaines ?
Absolument, c'est intéressant parce qu'on a eu l'opportunité de discuter avec des gens du domaine académique, par exemple. On sait bien qu'il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de professeurs qui arrivent à un certain niveau de management, mais après, pour avoir des chefs de cathédre femmes, il faut les chercher. Je pense qu'il y a une seule au Luxembourg. Mm-hmm. Pareil dans la finance, le glass ceiling, comme on l'appelle, il est assez proche de tête de femmes. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à percer plus souvent. La loi, c'est la même chose. Et, je disais tout à l'heure, par exemple, à la communauté européenne, la première fois qu'on a discuté de la condition des femmes et combien de femmes sont présentes dans les institutions européennes déjà, c'était en 1982. Et ça a pris le temps pour mettre le quota, ça a pris 40 ans quand même. Donc je pense qu'après 40 ans, si tu ne vois pas une évolution du tout presque, ou tellement minime, je pense que c'est peut-être le temps de réfléchir au quota, même si ça a l'air que ce n'est pas juste, mais c'est peut-être une autre façon de bouger les choses.
Mm-hmm. Alena Baeva, qu'en est-il de votre vécu en tant que soliste et en tant que violoniste?
The thing is that I think for instrumentalists, mm-hmm. it's a little bit different because there were always girls who you know, for example, if you are an only girl in the family, so your parents would, like 200 years ago, right? They would promote you, they would teach you, they would support you sometimes. And if you are not so lucky to have an older brother like Felix Mendelssohn, if you are a composer and a musician and you are amazing, but you have an older brother and everybody tells you, what, you don't have to do that, you know, you don't have to do music. But for instrumentalists, it was different. I think they could always play. And I had always the feeling that I have to fight a lot. But probably it's a combination of factors. It's probably not just because of my gender, but it's, yeah, we all have to fight in a way. Mm-hmm. But if you look at the past, of course, the situation was so different. For example, there was one of Clara Schumann's pupils. Oh, we will speak about Clara Schumann probably. She's a hero of all musicians. So she was an amazing piano player. She was a prodigy. Brahms loved her playing. And then she got married. She stopped performing. And in the 50s already, she was already aged. And she gave some interview and she played for a series of BBC interviews. And that was a sensation because she was a lifetime machine. But yeah, cases like now we have much more support, of mm-hmm. course. And I'm very, very happy to live in this exciting moment because mm-hmm. we see the changes finally.
Mais ça reste quand même toujours une épée à double tranchant parce que d'un côté, on donne une place aux femmes dans différents endroits, en l'occurrence dans la musique classique. D'un autre côté, se pose la question, est-ce que tel et tel poste a été donné parce que c'est une femme ou parce qu'il y a un talent, ou un peu des deux en fait. Et c'est une question, je pense aussi, qui est posée de l'extérieur. Est-ce que vous avez peut-être eu cette expérience-là, qu'on critique le fait que vous ayez été bookée pour un concert ?
Non, pour moi, on critique. Enfin, en tout cas, je le sens pas comme ça. Qu'on mmh. critique pas, voilà, que je suis là parce que je pense que l'orchestre veut m'inviter, pas parce que je suis une femme, mais je comprends complètement ce que Alena veut dire. Et aussi, il y a en tout cas, pour revenir sur le côté de Clara Schumann, et en fait aussi du côté qu'elle a eu plein d'enfants.
Huit enfants.
Et dès qu'une femme a des enfants, on a toutes les deux des petits-enfants. En tout cas, moi, elle a 20 mois, donc c'est vraiment très petit. Et c'est vrai qu'on se pose la question. Enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis mère, je peux vraiment dire que j'ai encore plus la niaque, en fait.
Ah ouais.
j'ai l'impression qu'il faut, en fait, c'est ça. C'est ça le problème. Mm-hmm. Il faut que j'ai plus la niaque. Alors, je l'ai dans mon sang, il n'y a pas de problème. Mais il faut presque se justifier. Je suis mère, mais je peux le faire. Enfin, mm-hmm. donner... et je pense que ça rejoint complètement toutes vos recherches et tout ce que vous disiez. Parce que Et du coup, on en vient à la question de l'identité, juste l'identité d'une personne et donc les valeurs. Et c'est pas parce que, encore une fois, je suis une femme que je peux faire moins bien ou je peux moins bien diriger ou être moins valorisée, etc. Alors, oui. Mm-hmm.
Au niveau du management de la vie de mère et de la vie en tant qu'artiste ou en tant que musicienne, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des aides ou qu'il y a une certaine compréhension de la part des orchestres avec lesquels vous jouez ou que vous dirigez?
Well, I guess I had 3 children for the moment and I was traveling with all of them since I was lucky to have a good health, so I was almost never stopped playing. Mm-hmm. And when they were 3 weeks, I started playing concerts again and traveling with them. And I got a lot of understanding from the venues. Probably the most difficult was actually the UK in 2010 with 3 months old daughter. That was not very easy because they really want everything to be in a very correct way, proper, you know. So
very English.
yes, very English in a way. But otherwise, I think, well, lots of everywhere there was a lot of understanding and help. And mm-hmm. I mean, people were just.
Yeah. Moi, je rejoins mm-hmm. ce que Alena dit. En mm-hmm. tout cas, moi, j'ai toujours eu le soutien des orchestres et des musiciens. Et ça fait vraiment du bien.
Eh bien, c'est sur ces mots positifs que nous arrivons à la fin de la première partie de cette table ronde. Nous allons à présent faire une courte pause musicale. Après la pause, nous allons discuter de la situation actuelle. Mais d'abord, nous allons écouter la musique d'une compositrice luxembourgeoise. Elle a longtemps été oubliée, on pourrait même dire ignorée, et puis redécouverte il y a peu. Il s'agit de Helene Buchholz. Nous allons écouter un nocturne interprété par le pianiste Marco Kraus. Bonne écoute.
Thank you.
Le pianiste luxembourgeois Marco Kraus avec le Nocturne d'Eulen Buchholz. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de cette table ronde, pendant laquelle nous allons discuter un peu plus de la situation au jour d'aujourd'hui, sachant que l'étude date d'il y a un an ou deux. Claire Chadec, le but de l'état des lieux était de 1. De mettre le doigt sur les inégalités de genre dans le secteur culturel et de 2. De donner aux responsables des programmations des outils pour favoriser plus de diversité dans le secteur. Qu'est-ce que vous observez depuis la publication de ce travail ?
Alors, quand on a présenté les résultats de l'étude, on les a présentés devant les différents établissements qui faisaient partie de l'étude, en fait.
Parce qu'il y avait aussi signé la charte, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'on voulait un peu savoir leur feedback, entendre leur écho, qui était quand même très, très positif. Les établissements étaient très contents qu'on a fait cette étude et que maintenant on a quand même un peu de données sur la représentation des genres. Puis après, il faut également dire que l'étude a été financée par le ministère de la Culture, mais également par la commune de Dudelange. Donc là, on avait également un certain intérêt de soutenir ces études, cette recherche. Et on a également donné beaucoup d'interviews sur ce sujet. Donc je pense que l'intérêt, il est là. Mais là, il faudrait en fait une deuxième étude pour voir si cette étude, elle a lancé un changement, initié un changement. Ça, on ne sait pas encore.
En France, l'Observatoire de l'égalité a constaté des changements depuis le mouvement MeToo, donc qui date de 2020, plus ou moins, ça a commencé en 2020. Qu'en est-il de la culture au Luxembourg ? Est-ce que vous avez des chiffres à ce niveau-là ?
Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Parfois, c'est très difficile d'avoir des chiffres ici au Luxembourg. Ouais.
Mariana Florea, est-ce que vous avez l'impression que depuis MeToo et depuis aussi l'état des lieux qui a été fait, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, d'après vous ?
Pas sûr.
Aussi votre ressenti, hein. Ça ne doit pas être des chiffres exacts, mais ça peut aussi être l'impression que vous avez dans les cercles dans lesquels vous êtes.
Mais même si on observe pas encore de grands changements, je pense que des études comme ça sont très importantes. J'avais lu l'Observatoire de l'égalité entre les genres de 2023 au Luxembourg. Et la ministre d'égalité des genres et de la diversité, Yuriko Bakes, elle dit qu'il est important de mesurer afin de pouvoir améliorer. Donc je pense que ça commence par des études comme ça, parce que sinon on parle de feeling et on sait bien que les hommes n'aiment pas discuter à base de feeling, ils veulent voir des chiffres. Donc je pense que c'est bien de donner des chiffres quand même.
Et vous, Alena Baeva, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui changent depuis quelques années ?
Yes, me too was a great, great moment. And I still meet some people who think, oh, but why... Yes, you have to have a lot of discussion. But I think the key is information. You need to have as much information as possible, open information, talk about it, and then people start to think if they didn't before. So that was the absolute need. And I remember I was very touched. I think a year ago there was an ad. I think it was by Mercedes-Benz or something. And it was about girls, actually, about girls who succeed in their fields. And the message was that I don't want to be the only one, you know, I want to be one of many. And that's so brilliant. I mean, we really need more of these things to talk to people in a language they understand and from everywhere, basically, because it's very important. To battle this biases.
On voit qu'il y a un certain mouvement, en tout cas dans les médias, dans la publicité, dans la culture. Et finalement, quand on lit des études comme ça, on se dit que il y a des choses qui ont changé, mais au niveau de tout ce qui est haut placé, finalement, pas tant que ça, en fait. Ou en tout cas, en 2023, maintenant, peut-être que ça a changé maintenant, mais on n'a pas encore les chiffres, je suppose. Hein.
Oui, absolument.
Et vous, Chloé Van Soutersted, en France, est-ce que vous avez constaté un changement, peut-être ?
Alors, moi, je suis vraiment très, très basée en Angleterre.
Ah, en Angleterre, alors.
Oui, en Angleterre. En France, je n'ai pas beaucoup de contacts. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Enfin, il y a moins de on se cache la face et on peut enfin peut-être plus souffler et se redresser et juste être, j'espère en tout cas, et que ça va se concrétiser encore plus et se être respectée pour qui on est en tant que femme. Mais je pense que c'est aussi dans le monde du cinéma, où c'est vraiment énormément libéré, évidemment. Dans le monde culturel, je pense en général, mais il y a beaucoup de chemin à faire.
Mmh. Oui, parce que je pense qu'il y a quelques années, de voir une femme diriger, c'était un truc énorme. Ça l'est toujours, mais c'est moins le truc waouh, en fait. Maintenant, ça devient de plus en plus, tout doucement. On voit des femmes qui dirigent, on voit des femmes qui conduisent des bus, par exemple. C'est aussi quelque chose qui, il y a quelques années, aurait été mais complètement incroyable. Et maintenant, ça devient tout doucement normal, en fait.
Très doucement. Et puis, il y a aussi le concours de la Maestra qui a été mis en place il y a 3 ans maintenant, à la Philharmonie de Paris, en France. Et donc, c'est vraiment qu'un concours pour femmes chefs d'orchestre. Et voilà, avec des très, 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 très grandes pointures du monde de des chefs d'orchestre, Marine Alsop, qui était dans le jury, Claire Gibault, qui est donc à la tête de cette initiative. Et je pense que c'est quand même essentiel d'avoir ce tremplin, en fait. On avait besoin de ce tremplin. Après, je suis vraiment pour la diversité. Donc, c'est, je pense, important d'avoir vraiment... Peut-être, j'espère, dans le futur, il y aura vraiment 50-50 et qu'on pourra enfin faire la balance. Mais peut-être que ça serait peut-être dangereux aussi que la balance se renverse. Alors, est-ce qu'elle va se renverser? Je ne sais pas. Mais que du coup, les hommes soient amoindris, parce que ce n'est pas ça le but. Je pensais vraiment que ça soit vraiment égal.
Mariana Florea, qu'est-ce que vous pensez d'un quota 50-50?
Je pense que Chloé a raison. En fait, c'est un tremplin pour tout le monde, en fait. Parce que je pense même les hommes, ils osent faire des choses qu'ils n'osaient pas faire avant. On voit de plus en plus de pères qui poussent la poussette et ils sont plus gênés, comme il y a 10-15 ans, quand ils étaient peut-être forcés à le faire. Là, il y a des hommes qui veulent faire partie de la vie de leurs enfants assez tôt dans la vie d'un bébé. Oh, je ne sais pas, il y a des professions pareilles. Donc, je pense que ça ouvre un peu un dialogue qui n'était pas ouvert avant. C'est de deux côtés, c'est pas seulement des côtés des hommes, c'est des côtés des femmes aussi.
Et vous, Claire Chaudet, vous pensez quoi d'un quota?
Oui, si je peux ajouter quelque chose là sur cette discussion, parce qu'en fait, dans l'étude, on a observé que le genre de la personne qui est responsable, qui est en charge de la programmation, ça a un impact sur la décision qui en fait est engagée dans l'ensemble. Donc si le genre de la, par exemple, si on a une direction musicale masculine, le taux de soliste, il est élevé par rapport si on a une direction musicale féminine. Donc le genre attire en fait le même genre. Donc.
I wanted to add that actually I heard, because I'm not a conductor and I'm an instrumentalist, and it's like orchestra musicians sometimes share with me what that would not share with a conductor, especially a female conductor. So I feel like the bar is so much higher. Mm. It's like you have to be just better than the man on the same position. I mean, yeah, that's
totally
probably
agree.
Everywhere.
It's
probably,
like now, right? If you're a woman, you have to be perfect. Mm-hmm. And we have this pressure. I'm trying not to have this pressure,
yeah.
But of course it's like behind your head very often, and psychologically it can really be draining. And then to come back to le quota 50-50, il y a aussi la sélection derrière paravent pour les musiciens d'orchestre. Et en fait, ça, je pense que c'est une très bonne chose que beaucoup d'orchestres se plient. Donc, on joue, les musiciens d'orchestre qui veulent rentrer dans un orchestre jouent derrière un paravent. Souvent, on demande aux candidats de retirer leurs chaussures parce qu'il se peut que voilà, il y ait des talons, des choses comme ça. Et ça, c'est juste. Parce qu'on pense, c'est vraiment... Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut faire ça pour un chef d'orchestre? Évidemment, sans doute pas. Parce que... le son serait très différent d'un orchestre avec un chef et de le même orchestre avec un autre chef ou une autre chef. Mais la question du chef d'orchestre, c'est vraiment de jouer avec les gestes et comment le geste influence la musique. Parce qu'au fond, on n'est pas des métronomes. Ça sert à rien. Enfin, un orchestre peut jouer tout seul, hein, y a pas besoin de chef. Nous, on est là vraiment pour imprimer notre vision d'une œuvre. Et voilà, c'est intéressant de se poser cette question, mais en tout cas, les paravents, je pense que c'est quelque chose de bien pour la justice.
peut-être si je peux juste encore vérifier ce que j'ai dit, parce que en fait j'ai parlé de soliste et cette observation elle dénote en fait les analyses précédentes, parce qu'en fait c'était pas les solistes mais c'était les auteurs, donc c'est la direction musicale
des compositeurs.
Je me suis demandé exactement, parce que pour les solistes c'est à l'inverse, donc ça c'est intéressant parce que pour toutes les autres professions qu'on a recensées, c'était vraiment le genre attire le même genre, mais pour les solistes, c'était à l'inverse.
Ouais.
Oh. Je l'ai juste encore vérifié, c'est intéressant. Ça.
Ouais. I wonder if this specific women competition for conducting maestro and others. So some people complain that it's discrimination. That why do you separate it? But I think it's temporary measure probably. Right?
I think it's the word is temporary. You're right. I think it should be temporary.
Yeah, we need to get used to it, and it's fine then later. And of course, many men complain that if you are white, straight, normal man, just good at what you do, you don't have many chances now. Mm-hmm. So it's like, life is like that, right? Yeah. Now we feel what we were feeling all those years.
En quelques mots, pourquoi est-ce que et c'est une question que je vous pose à toutes l'une après l'autre, pourquoi est-ce que la représentation des femmes, particulièrement dans le secteur culturel, est aussi importante à vos yeux?
Well, in cultural sector and everywhere, it's known that women have a different approach to problem solving, to conflict management, and to overall, you know, view, and it's extremely valuable, I would say, and it's also so creative and it's necessary, mm-hmm. And it's a big. The involvement gives so much to any field, I'd say.
Maybe the word sensibility, that of course men have this sensibility, I'm not saying that they don't, but maybe a certain sensibility that women have, and I think this adds a lot of power perhaps there as well.
Mariana Floria.
Je pense que c'est très important même pour la santé, si on pense. Je veux vous rappeler un truc très banal, les ceintures de sécurité qui ne sont pas adaptées au corps des femmes, par exemple. C'est vraiment débile, mais c'est comme ça. Il y a 47% de chances de plus qu'une femme soit plus accidentée dans un car crash parce que la ceinture n'est pas adaptée à sa morphologie. Et si on pense aux femmes enceintes, oublions, parce que aucune chance. Si le bébé est expulsé, il y a des vidéos, ça donne froid au dos. Et parce qu'on n'a jamais considéré pour les voitures, et les femmes conduisent les voitures autant que les hommes aujourd'hui. Et je fais cette extrapolation un peu extrême, mais c'est pareil dans tous les domaines. C'est dommage de manquer une partie de la population qui ne participe pas activement à tout. Parce qu'on a de bonnes idées, on a des autres façons d'approcher les choses. Et je pense que le résultat final va être toujours mieux.
Claire Chadec.
Peut-être pour conclure, je me pose la question, pourquoi il faut toujours trouver des raisons pour légitimer en fait la place des femmes dans un secteur. Parce que je pense qu'on a tous et toutes le droit à faire partie de la société. Ouais. Mm-hmm.
Et nous arrivons déjà à la fin de la deuxième partie de cette discussion. Tout de suite, après une petite pause musicale, nous allons enfin jeter un regard vers l'avenir. Et nous continuons avec une autre compositrice luxembourgeoise qui, elle aussi, a été redécouverte il y a quelques années. Il s'agit de Lou Costa. Nous allons écouter Toute vie, interprétée par l'orchestre Astro Harmonico Luxembourg, et ce, sous la direction de Jonathan Kell. Je vous souhaite une bonne écoute. Thank you. Vous venez d'entendre Toute vie, musique de la compositrice luxembourgeoise Lou Costa, une interprétation d'Astro Harmonico Luxembourg sous la direction de Jonathan Kell. Nous passons à présent à la dernière partie de cette table ronde et allons parler de l'avenir. À toutes, quelles sont les prochaines étapes nécessaires pour que la représentation des femmes dans la musique classique au Luxembourg s'améliore, au niveau des structures étatiques, des orchestres, mais aussi au niveau individuel? Si vous voulez, vous pouvez commencer, Mariana.
Mais j'espère qu'un jour ou un autre, ce sujet ne va pas être un sujet, en fait. Parce que c'est ça, l'avenir, j'espère que c'est ça, qu'est-ce que ça va amener, qu'on n'a plus besoin de table ronde autour de l'égalité, que les choses vont se passer naturellement.
Oui, si on parle de billets, je pense que peut-être une réforme de processus de sélection serait une idée, comme par exemple, on a déjà des initiatives visant à rendre les auditions plus transparentes, telles que les auditions à l'aveugle. Donc peut-être cela serait également une piste à suivre pour les orchestres.
Yeah, but then you have a question, how to, you know, for example, admission process in universities. Mm-hmm. I'm very interested, how do they navigate this? Because how do you manage the, you know, these quotas? How do you manage the equality and with a blindness, you cannot always be even also. So that's, I think it's a never-ending searching for a balance. But it's extremely positive now, what happens now, and I mean, in developed countries.
Mm-hmm. Parce que je pense qu'au final, c'est pas seulement une histoire de, d'avoir un quota 50% de femmes, mais c'est d'avoir des femmes et de leur donner la chance de venir, et que de plus en plus de femmes se rendent compte que, ah ben oui, on peut diriger un orchestre en tant que femme, ou conduire un bus, ou faire ce qu'on veut, en fait. Hein, c'est...
Mm-hmm. I was reading about some research made for girls studying math and technical subjects at school. It was extremely interesting, and I had a big conversation about this with my friends, and I was the only one who was, and it was around five of my really close friends, and they were all trying to prove that girls were just not interested in it, that's why they are not studying it, and they lose interest when they are teenagers. It's difficult to prove, but we need to talk about it and to continue to implement some support programs and in school and everywhere.
Je pense que du coup, oui, c'est ça, ça vient vraiment de l'éducation et dès le plus petit âge, en fait. Même ma fille devant moi, je veux qu'elle soit dans la cour de récré avec un Indien, avec une blanche, avec un noir, avec plein, toutes ces cultures. C'est tellement riche et je pense que c'est ça. Il faudrait qu'on puisse... reformater entre guillemets, c'est remettre tout à plat en fait et regarder les études, les lire et en effet vous rejoindre qu'on ne parle plus de ça dans l'avenir parce que mais je pense que l'éducation c'est vraiment quelque chose que je me demande si j'étais une petite souris dans une classe d'école primaire ou d'école secondaire ou de lycée. Est-ce qu'il y a ces sujets-là d'éducation civique, en fait? Parce que moi, je me souviens, j'avais des cours d'éducation civique, mais il n'y avait pas toutes ces questions. Enfin, c'était des choses plus, je ne sais pas, plus peut-être terre-à-terre. Enfin, c'était moins philosophique, parce que tout ça, c'est aussi assez philosophique. Enfin, c'est hyper intéressant. Oui, l'éducation, je pense que c'est là où il faut vraiment creuser là-dedans.
Également, quant à la programmation à l'école, à la programmation scolaire, je pense que là, ce serait également très important d'augmenter en fait la représentation des femmes, la représentation des compositrices dans le matériel didactif. Donc, ouais.
Le ministère de la Culture a mis en place différentes actions depuis 2016, en fait, dans le cadre du Plan national du développement culturel, donc le KEP, le CAP, pour encourager justement plus de représentation des femmes. Est-ce que personnellement, vous avez l'impression qu'il y a une évolution depuis 2016? Ça fait quand même 8 ans. Alors, il y a eu l'étude, oui, qui fait plus ou moins partie de ça, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui changent depuis 2016 au niveau de la représentation des femmes?
Mais déjà, le fait qu'on discute de ça aujourd'hui, c'est la preuve que le awareness, il commence à être là. Et qu'au moins, c'est un sujet qui mérite la discussion. Et on ne discute pas qu'entre nous, mais on est à la radio, là.
Claire Chalac ?
Oui, absolument. Je suis totalement d'accord avec ce que vous disiez. Je pense que de manière globale, on peut dire que d'un côté, on a les personnes qui sont très, très engagées au niveau de l'égalité des genres et au niveau du féminisme. Mais on observe également un très grand backlash les derniers mois, les dernières années, des personnes qui sont vraiment contre la promotion de l'égalité. Et là, je pense que c'est très important au niveau global qu'on continue à promouvoir l'égalité et qu'on continue à sensibiliser pourquoi c'est important que l'égalité des genres, c'est une réalité. Mm-hmm. Ouais.
Oui, parce que comme disait Alena avant, certains ont l'impression que si on est un homme blanc normal, entre guillemets, qu'on n'a plus du tout de chance. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dit quelque chose comme ça? Qu'est-ce que ça serait la réponse?
Ça dépend de la société dans laquelle la personne veut vivre. Parce que oui, c'est vrai, il y a des personnes qui n'auront plus les mêmes privilèges qu'avant. Mais il s'agit ici de créer un monde qui est le plus juste, le plus inclusif pour tout le monde. Et là, il faut, parce qu'on vit quand même dans une société patriarcale, là, il faut qu'il y ait des gens qui reculent de leur position de pouvoir. Ouais.
Donc là, on parle beaucoup de musique classique, mais peut-être plus généralement, Mariana Florea, donc vous êtes plus dans des secteurs comme le droit, la finance, le monde universitaire, où il y a aussi des inégalités de genre, bien sûr, qui se manifestent. Est-ce qu'elles sont similaires de celles de la musique classique? Est-ce qu'elles sont pires, moins pires?
Je pense que les pourcentages, c'est rigolo, sont tous pareils.
Ah oui, donc c'est pareil, donc c'est aussi 1 sur 9.
Enfin, oui, 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 c'est un peu comme ça. C'est le 10% pour les femmes d'habitude et le reste pour les hommes. Mmh. Et on se demande pourquoi est-ce que quelqu'un peut questionner qu'il y a besoin de quotas parfois. Parce que, de nouveau, si ça c'était depuis hier... Oui, on peut comprendre qu'on peut avoir un peu la patience, mais quand tu as commencé cette discussion, quand tu étais à l'école primaire et tu es presque à la retraite, rien n'a changé, je pense qu'il faut se poser sérieusement la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour du vrai, pour que ça change?
Et pourtant, je dois penser à des choses comme tout le mouvement Girl Boss qu'il y a eu dans les années 2000-2010, dans le secteur surtout financier de l'entrepreneuriat. C'est quand même quelque chose qui a beaucoup poussé des femmes à monter et à prendre des positions quand même assez haut placées. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut s'inspirer de stratégies utilisées dans d'autres domaines pour justement améliorer la parité dans le secteur culturel?
Absolument, il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des erreurs aussi dans d'autres domaines et il faut s'inspirer de ça parce que si le domaine culturel a commencé à se poser la question un peu plus tard, pourquoi pas profiter de toutes les leçons déjà bien apprises dans d'autres domaines? Parce que c'est clair qu'il n'y a pas une seule recette possible. Et je pense qu'il faut utiliser tout ça. Oui, absolument.
Parce qu'un des problèmes avec tout ce mouvement dans les années 2010, c'était que les femmes allaient commencer à prendre des postes haut placés, mais en se comportant, entre guillemets, comme un stéréotype d'homme, ce qui n'a pas vraiment, comment dire, réglé l'affaire, en fait, finalement.
Non. Et à un moment, c'était une compétition entre les femmes. Il y avait deux femmes qui pouvaient être nommées, et c'était... Non, la compétition est avec tout le monde. Ça ne peut pas être juste avec, entre les femmes.
Chloé Van Sutterstedt, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu... voir ou vivre?
De toute façon, nous, on est toujours en compétition, avec les hommes, c'est sûr. Mais en fait, pour revenir sur le côté un tout petit peu plus philosophique peut-être de la discussion, c'est vraiment, je pense qu'il y a la confiance, en fait. Le fait de donner la confiance à la femme. Et aussi, du coup, moi, en tant que chef d'orchestre, qui, là, je vais faire face à 40 ou 45 ou 50 musiciens. Des fois, je fais face à 150 musiciens. Et il faut que cette confiance soit très, très solide. Et je pense qu'il faut que les hommes sachent que la femme qui peut représenter, c'est pas parce que c'est une femme que... Elle est fragile, il n'y a pas confiance, etc. Je pense qu'il y a ce côté aussi, faire confiance à la femme qui est aussi intelligente ou aussi créative, ou voilà, tous ces adjectifs que l'homme. Et du coup, pour revenir un tout petit peu plus en arrière, il y a l'élection américaine qui quand même est hyper, hyper intéressante parce que du coup,
si Kamala Harris, alors là je fais juste une petite aparté, est élue, alors ça, ce serait vraiment un changement incroyable. Parce que du coup là, on a vraiment deux personnes complètement, et ça serait la première femme. Enfin, je pense que là, il pourrait avoir vraiment un énorme tournant, et en espérant qu'il y ait beaucoup de choses qui changent en fait. Aussi qu'elle donne l'image d'une femme. Des fois, je dis à mon compagnon, pourquoi on peut pas, un homme politique ou une femme politique peut pas pleurer quand ils veulent? Et bien parce qu'en fait, il y a toujours une espèce d'image. Peut-être que ça rejoint aussi le côté de la confiance et le pilier, etc. Mais c'est vrai qu'on est tous humains. Et la dernière fois, je regardais un épisode de Volodymyr Zelensky et qui regarde toutes ces atrocités dans son pays. Et je lui dis, mais pourquoi, en fait, il ne peut pas montrer que... Pourquoi il ne peut pas pleurer? Et il y a ce côté un peu genre façade. Et je me demande aussi, est-ce que les hommes pensent que les femmes sont plus fragiles? Il y a ce côté aussi, on n'en a pas vraiment parlé, mais cette fragilité. Je pense que si un homme peut pleurer publiquement, je pense qu'il y a aussi ce côté peut-être humain qui pourrait se... Ah, lâcher un peu, je sais pas, lâcher prise.
Lâcher les émotions, ouais, ouais. Et c'est peut-être justement la chance du domaine culturel, vu qu'on parle beaucoup d'émotions et de ressentir et de partager ses émotions.
Oui, on n'est que dans les émotions, en fait, dans la musique.
Mais pas seulement la musique.
C'est dans toute la vie. Dans les arts et dans la vie, oui, c'est sûr.
Et c'est beaucoup plus émotion que logique et intellect que nous pensons. En fait.
C'est juste que vous créez des émotions pour nous aussi, donc merci beaucoup.
Pour terminer, quel serait votre souhait pour l'avenir en tant que femme?
You know, I wish it could not be a question in future. It should not be really a question to think how should I survive as a woman or how should they survive as a woman. You know, it should be supported. It should be understood, also from the point of being different from men, not being equal, but being different and appreciate these differences and highlight these differences and use it also for the good of the society.
Peut-être pour faire le point avec l'éducation, je souhaite que, bon, j'ai une fille, donc je vais dire ma fille défende, mais en se sentant estimée, mais juste estimée naturellement. Pas en ayant quelque chose de forcé. Que, oui, c'est ça, que ma fille puisse vivre la vie comme elle le veut, dans une société qui soit juste. Et du coup, j'ouvre pour l'avenir, parce que l'avenir, c'est la prochaine génération qui fera notre avenir. Donc c'est à eux, ils ont les clés. Enfin, il faut leur donner en tout cas les clés.
Mariana Florea.
Un peu pareil. J'espère qu'un jour, tous ces sujets ne vont plus être des sujets. J'ai beaucoup d'espoir parce que ma fille, elle vient de commencer sa carrière professionnelle. Je vois qu'ils sont un peu plus égalitaires déjà depuis le lycée. Elle ne comprend pas pourquoi c'est juste une femme qui doit faire certaines choses ou pourquoi c'est juste un homme qui doit faire certaines choses. Et j'espère qu'elle n'est pas la seule. Et je ne crois pas qu'elle est spéciale à ce point-là. Je l'adore, mais... Je pense que vraiment cette nouvelle génération qui arrive est déjà un peu plus changée que nous avons eu l'opportunité de l'être et qu'ils vont casser ces biases et ces blocages qui existent dans la société d'une manière plus facile. Nous, on se pose trop de questions. On ne devrait vraiment pas avoir tellement de discussions à ce sujet. On a déjà prouvé, les femmes, beaucoup de fois, il y a des statistiques à ne pas finir avec de bons résultats de femmes qui sont mises dans des positions à responsabilité. Et malgré tout ça, on recule à chaque fois quand on doit prendre des décisions par rapport aux femmes. Donc j'espère que tout ça va disparaître un jour.
Claire Chadec?
Oui, je souhaite que le genre ne pose plus aucun obstacle à les opportunités de chaque personne, en fait. Ouais.
Et c'est sur ces paroles inspirantes que nous terminons cette table ronde. Alena Baeva, Chloé Van Souterstedt, Claire Chadec et Mariana Florea, je vous remercie de votre présence et surtout pour cette discussion constructive.
Merci.
Hanna Mikrofier, Schaut, Fat, Marie Trussard, Dehuts, eng table rond iwwer Thema vun der Genderrepräsentation an der klassischer Musik heieren. Ech hoffe, Di hat soviel Spaß um Nolächtre wie mehr ha um diskutéieren haten. Ech schloss Negelo mat enger weiderer lokaler Komponistin, deskeier as et och eng zeitgenössseg. Me lauschtren Murmuration vun der Katrin Konz, interpretéiert vun der Lützebauer Pianistin Kathi Krier.
Das Genie Ardauer
Radio 100,7. Radio 100,7.
Bonjour. An einer Emission nach Musik hat der Haut ein Konzert, den an der Lützburger Philharmonie abgeholt wurde, an der Serie von Rising Stars, die von ECHO, der European Concert Hall Organization, kuratiert wird. An diesem Konzert singt Sopranistin Axel Fagnot, als sie geht um Piano begleitet vom Pianist Kunal Lahiri. Axel Fagnot, eine schwarz-französische Sopranistin, geht von der Philharmonie von Paris, dem Auditorium de Lyon, an der Calouste-Gulbenkian Foundation nominiert. Axel Fagnot hat 2021 den ersten Preis gekriegt bei der Nadia and Lily Boulanger Competition. Sie hat den Kaleidoskop-Preis gewonnen und auch einen etlichen Preis mehr. Sie hat Musikologie an der Sorbonne studiert. Sie war relativ erfolgreich als Geistin und hat dann noch angefangen, Gesang zu studieren am Conservatoire National Supérieur de Musique von Paris. Sie hat auch mit David Stern am Opera Foco Workshop geschafft, als sie war ein Member vom Songstudio an der Carnegie Hall, den du von der amerikanischen Sopranistin René Fleming geleitet wird. Sie hat schon an einer rutsch europäischen Oper gesungen, an einer Konzertsaal wie der Wigmore Hall oder der Philharmonie de Paris, wo sie Titelrolle am Debussy-Sänger Demoiselle Élu gesungen hat, am Orchestre de Paris und dem Esa-Pekka Salonen, den sie Doropsa an Davis Hall ob San Francisco invitiert hat, für die Rolle von der Refka an der Kaya Sarriao-Oper Adriano.